Et voilà, ça démarre et c'est là qu'on coupe.
Et oui,
voilà, on le passera une autre fois. Parce qu'autrement, Jeff, il va nous tuer. On coupe un Black Sabbath. Oh, sacrilège.
Oui, mais bon, la technique a fait que petit souci technique. Donc, en même temps,
c'est bien que ça soit ce morceau-là, parce que c'est un morceau qui colle au palais, n'est-ce pas? Alors, quand on va parler de langue,
on va parler de langue, justement. Donc, tu comprends tout ce qu'il raconte là dans les chansons?
Ah bah j'ai pas franchement écouté, pour être honnête. J'ai écouté la musicalité, on va dire.
D'accord. Alors, conférence, comment apprendre une langue? Alors moi je dis, il y a deux solutions. Soit on va à l'école et on parle une langue tinègre. Alors, je parle pour nos amis africains, c'est une manière de dire, c'est pas une insulte, hein. C'est-à-dire qu'on parle très mal la langue et on la comprend pas. Soit
en français on appelle ça parler yaourt.
Voilà, ou yaourt. soit on va dans le pays où on rencontre une personne issue du pays. Si on rencontre une personne issue du pays et que l'on passe quelques moments ensemble intimes, on apprend plus facilement la langue que d'aller chez une famille. Mais bon, on peut apprendre aussi comme ça. Donc, qu'est-ce que tu préconises?
Alors, en fait, justement, c'est dans le sujet de cette conférence. C'est pour faire simple, hein, parce qu'en fait, c'est des petits. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des conférences TED. En anglais, ils appellent ça des TED Talk. Je vous invite à regarder TED.com, TED.com. Donc, c'est des conférences très courtes, donc d'une durée maximum de 18 minutes, où le but, c'est vraiment de susciter une curiosité. On va apprendre des choses, mais qui vont nous donner envie d'aller plus loin. Donc, c'est samedi, donc, au Théâtre Sorano. Et justement, ce que j'essaie de transmettre comme message, c'est que, bien que je parle 11 langues et non pas 17, en fait, j'ai rien de spécial, si ce n'est une très très grosse passion pour ça.
Et une grande curiosité aussi.
Une très grande curiosité du monde, des cultures, des peuples, ce qui me pousse à beaucoup voyager, ce qui, effectivement, c'est comme ça surtout que j'apprends, c'est en étant sur le terrain. Mais il y a plein de façons d'apprendre, mais il faut avoir un objectif, il faut savoir pourquoi on a envie d'apprendre. On n'apprend pas juste parce qu'il faut, on apprend parce qu'on a envie.
Voilà, donc l'obligation qu'on a à l'école fait qu'on n'a pas vraiment envie.
Mais c'est...
Ça dépend des écoles aussi, mais bon, et des profs.
Ça dépend des profs parce que ça peut, d'une année à l'autre, changer drastiquement. Il faut quelqu'un qui arrive à nous donner envie, enfin à susciter l'envie en nous, parce que c'est pas la personne qui va nous la donner, hein, c'est l'envie, elle est en nous. Et une fois qu'on a cette envie, bah, on apprend beaucoup plus vite. De toute façon... Comme toute chose, hein, quand on le fait en s'amusant, c'est tout de suite plus plaisant, plus efficace, que ce soit aller chercher ses légumes à la map,
oui,
ou apprendre une langue étrangère. À partir du moment où c'est fait avec plaisir, on voit pas le temps passer, et parce que de toute façon, voilà, j'ai consacré quand même beaucoup de temps pour apprendre ces langues-là, et je continue à en apprendre et à consacrer du temps à ça, mais ça m'amuse. Et je fais tout pour que ça m'amuse et qu'il n'y ait jamais quelque chose qui m'ennuie.
Que ça reste ludique. Les langues que tu parles, on va pas faire le détail, c'est la plupart des langues indo-européennes.
Oui, c'est toutes des langues indo-européennes, et la 12e serait le turc, mais vu que ça fait 3 ans que je le pratique pas et que j'ai pas vécu non plus en Turquie, j'oublie un peu, mais ça serait pas une langue indo-européenne. C'est même des langues européennes pour la plupart, et c'est ce à quoi j'essaie de remédier en ce moment en apprenant le chinois.
En apprenant le chinois, avec ses 100 millions de caractères. Non, pardon, peut-être pas autant.
Et justement, mais... en fait, moi, je, c'est l'avantage quand on apprend, quand on aime les langues, c'est qu'en fait, plus on en connaît, plus on peut comparer. Et sincèrement, je pense que le chinois est beaucoup plus simple à apprendre quand on veut le parler, que d'autres langues européennes, en particulier le français. Non mais disons qu'en fait, pour reprendre cette fâcheuse expression de petit nègre, en fait ils font que ça, ils parlent comme ça, c'est-à-dire moi vouloir dire toi, quelque chose comme ça, en fait ils conjuguent pas, les mots sont mis les uns après les autres, il n'y a pas plusieurs formes pour dire tu, en fait c'est tu, toi, ton, ça se dit toujours tu, c'est en fonction de la position dans la phrase, donc finalement il n'y a pas tant de mots à apprendre que ça pour dire plein de choses. Par contre effectivement l'écrire et le lire c'est difficile, mais c'est ce qu'on met en avant donc avec la caravane des langues, avec Daria qui est venue la semaine dernière, Jenny, Mariella, enfin on est plusieurs vraiment sur, dans ce projet et dans notre école de langue Toolingua. Notre but c'est de mettre l'accent sur parler, parce qu'une langue ça se parle.
Oui, une langue, c'est une langue pas parlée, qui ne se parle pas, c'est une langue morte. Comme le, comme le latin est devenu une langue morte quasiment.
Oui, et puis même dans une même langue, je mets au défi quiconque de parler le français comme il l'écrit. On n'écrit pas comme on parle et on ne parle pas comme on écrit, à part peut-être dans les SMS, mais dans la littérature, dans tout ce qui va être, même les livres pour enfants. Ça, c'est un conseil qu'on donne souvent de commencer avec les livres pour enfants. Les livres pour enfants, c'est de la littérature. Et donc, c'est en général quelque chose qui est assez complexe dans le vocabulaire. Il était une fois un prince élégant. C'est pas un vocabulaire simple. On peut commencer plutôt par éventuellement des BD, puisque vu que c'est du dialogue, ça se rapproche du, de la langue parlée.
Parce que la même phrase, c'est au début, il y avait un beau prince.
Voilà,
un prince beau, même.
Non, ça dépend dans quelle langue, hein, dans quelle culture. On n'a pas tous la culture du prince, mais voilà, il y a beaucoup de façons d'apprendre. Et même si on veut s'intéresser à l'écrit, ben, y a plein d'autres solutions que celles qu'on croit. Lire les sous-titres d'un film, c'est une façon d'apprendre à l'écrit.
Je connais des gens, moi, qui ont appris le japonais à travers les jeux vidéo.
Et ben pourquoi pas,
par exemple. Ou les mangas.
Non, les jeux vidéo, parce qu'ils récupéraient les jeux vidéo qui venaient directement du Japon, et donc, pour avoir les instructions, obligé de... voilà. Je me demandais, alors, c'est presque de la provocation, là, mais bon, j'aime bien ça. Je vais encore faire le vilain petit canard. Je me disais, est-ce que la langue la plus internationale, ce serait pas la langue des signes?
Alors, ça dépend ce qu'on entend par langue des signes. Si on entend la langue des signes comme la langue des sourds et muets,
oui.
Bah non, parce qu'en fait déjà...
C'est pas la même d'un pays à l'autre.
C'est pas la même d'un pays à l'autre. Et il y a aussi des frontières étranges, c'est-à-dire que les Américains ont un... Si je me trompe pas, hein, parce que je parle pas la langue des signes, les Américains sont capables de communiquer en langue des signes avec des Japonais,
oui,
parce qu'ils ont une langue des signes très proche, mais par contre ne sont pas capables de parler avec des Anglais, parce que leurs langues des signes sont différentes. Comme quoi, c'est les frontières des langues des signes sont très...
À mon avis, ils mettent pas beaucoup de temps à combler le vide. Comparé à apprendre une langue.
Oui.
J'ai l'exemple là, de Français en langue des signes qui sont allés au Japon. Et voilà, quoi. Le premier jour, on prend ses marques. Deuxième jour, on parle quasiment normalement. Troisième jour, on se raconte des blagues. Non.
Certainement, parce que ce sont des langues, je pense, qui ont été, à part pour des choses abstraites, mais pour des choses assez concrètes.
Ce sont à peu près les mêmes signes.
Mais surtout instinctive. Moi j'avais appris quelques mots là je suis désolé pour la radio, ça va pas marcher.
Mais des mots signes, la radio, ça marche pas.
En langue des signes pour dire oublier. Ben le geste, je l'ai pas justement oublié parce qu'il est tellement en accord avec le on part de la tête et on l'enlève de la tête. On enlève la main de la tête parce qu'on a oublié, voilà, c'est sorti de la tête. Donc il y a plein de choses comme ça quand on sait un peu d'où ça vient.
Bah, mais comme bonjour en français, en des signes, c'est comme ça. Enfin, on incline sa main, on part de la bouche et on incline sa main. Et au Japon, c'est le pouce qui voilà, bonjour, c'est on plie le pouce comme ça et ça correspond en fait à l'inclinaison du corps.
Ah oui,
et
oui.
Un truc typiquement japonais.
Ah oui, donc comme quoi ça reste aussi culturel. Il y a beaucoup de signes dans les pays, pour les gens qui parlent, enfin qui sont pas muets ni sourds, en France, on s'en rend pas compte parce qu'on le fait naturellement, mais pour quelqu'un qui vient d'un pays très lointain, on a plein de codes qui soient même sans les mains, juste faciaux.
Faciaux, oui.
Des choses qu'on fait avec le visage pour exprimer le doute, l'incertitude, l'ironie, plein de choses. En permanence. Et quand on regarde quelqu'un d'un autre pays, on caricature souvent l'Italie pour ça, mais c'est la même chose pour tous les pays, en fait.
Alors, la langue universelle sur cette planète, je pense que c'est la langue musicale, c'est-à-dire la clé de Do, la clé de Sol, la clé de Ré, elle est partout comprise dans le monde. Par contre, elle n'est pas parlée par tout le monde, mais quoique avec la musicalité de la voix, mais.
Oui. Donc pour moi, je fais souvent le parallèle entre musique et langue parce que parler, c'est faire de la musique. C'est, on a des sons, on a un rythme, on a une intonation. Par contre, déjà quand on parle de do, ré, de clé, là on s'adresse quand même à une partie du monde et pas tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui appellent ça par d'autres noms, tout simplement, mais aussi qui ont des notes que nous n'avons pas. C'est pas qu'ils les appellent autrement, c'est qu'ils ont
des demi-tons, des quarts de tons, des quarts de tons, voilà. Des huitièmes de tons.
Ouais, si on va aller chercher très loin, ils vont au niveau du coma, donc c'est des toutes petites unités. Après, tout le monde peut plus facilement comprendre une musique, mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, par exemple des chants polyphoniques mongols ou inuits, c'est pas évident. Pareil, oui. Je pense que pour le rock de Black Sabbath ne parlera pas forcément à un Maya ou un Maasai.
Non, pas c'est, forcément.
Il comprendra peut-être qu'il y a de la colère, voilà, mais au-delà de ça, je sais pas si il comprendra peut-être une émotion.
Oui.
C'est peut-être ça, en ça que c'est universel.
Ouais, oui, c'est en ça que la musique apporte des émotions, oui. Et donc, les langues... Ah oui, la caravane, tu m'as dit qu'elle avait récupéré plein de dates, donc elle part d'Allemagne, enfin de la frontière allemande.
Oui, alors il y a encore des trous dans le planning, hein, donc on cherche toujours des dates, mais là, concrètement, dans les semaines à venir... Et pour nos amis toulousains, on sera le mardi 24 mai, si je ne me trompe pas, et mercredi 25 mai. Donc le mardi, on sera...
Non, le 24 mai, c'est samedi.
Ah oui, non, ça c'est la conférence TEDx. Du coup, c'est mardi, en gros. Mardi de la semaine prochaine, nous serons au Wild Rose, la rose sauvage, hein, si, pour ceux qui ne savent pas parler, qui est un bar qui se trouve près des allées Jean Jaurès et sur la rue Riquet, si je ne me trompe pas.
C'est pas des allées Jean Jaurès, alors. C'est sur la rue Riquet et c'est Gabriel Péri... la rue Gabriel Péri, oui.
Voilà, par là, dans ce quartier-là, voilà.
Entre la rue de la Gabriel Péri et la rue de la Colombette, et il y a une rose qui est fichée dans le sol, juste devant.
Eh ben voilà, comme ça vous pouvez pas le rater. Et on va faire une soirée jeu linguistique, donc basée sur l'intercompréhension. Et le mercredi, on fait une soirée à peu près dans les mêmes styles, mais à la Maison des Associations, si je me trompe pas, du quartier Arnaud Bernard avec l'association Toulang, comme Toulouse et Lang. Voilà. Donc on fait des jeux et l'intercompréhension, peut-être c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ? L'intercompréhension, c'est pour des gens qui parlent des langues voisines. Moi je dis des langues frères et sœurs parce que c'est par exemple pour le français, ses frères et sœurs, c'est l'italien, le roumain,
l'espagnol,
le portugais pour les principales, l'occitan, le catalan, le franc-comtois, bref.
Qui a une origine commune, en règle générale, le latin.
Voilà.
Du moins celle-là.
Voilà, donc elles ont une origine commune et du coup elles sont. Il y a une intercompréhension possible entre ces langues-là. Il faut quelques outils, un peu de... Voilà, on dit « Ah tiens, mais en fait, ça se prononce comme ça. » Et c'est vrai que quand je le prononce comme ça, je comprends beaucoup mieux ce que ça veut dire. Des choses comme ça. Donc c'est pour faire découvrir ces langues voisines, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent que le roumain est une langue slave. Non. Même s'il y a une grande influence slave, il y a une très grosse base latine, on va dire. Et donc faire jouer avec ces langues-là, faire comprendre ces langues-là même à des gens qui ne les connaissent pas du tout, et aussi faire créer des mots. On crée des mots parce qu'une langue, ça a été inventé par des gens, comme nous.
Et puis une langue vit tant qu'il y a la création de mots.
Voilà. Donc...
C'est pour ça aussi que le latin, il n'y a plus de création de mots en latin depuis Mathusalem.
Bah pas qu'en latin, hein, en français, il y a des inventions quand même. Il y a l'ovni qui veille.
mais tous les jours, on invente des mots parce que justement, il y a des mots qui disparaissent parce qu'on n'en a plus besoin.
Ce matin, j'ai abratafié.
Abratafié, tiens. Oui. Je ne l'ai pas, celui-là.
Et voilà, se prendre la manche du pull dans la poignée de porte, une tasse de café à la main. J'ai abratafié.
Ah, c'est
étymologiquement, ça tient la route.
C'est pas mal. Je sais pas si je bois pas de café, donc ça marche.
Ça doit pouvoir marcher avec du thé. Hein.
Bon, enfin bref. Oui, je me demandais est-ce qu'il n'y a pas justement. Alors, là, on pense à l'autre versant. Actuellement, la langue de communication sur la planète, c'est essentiellement l'anglais.
L'anglo-américain plutôt.
Ouais, enfin, bon, la langue anglaise, mais ce qu'on appelle globalement justement le global English. Or, un professeur d'anglais m'a dit un jour, ça m'a très surpris d'ailleurs, c'est que justement le global English a tendance à appauvrir l'anglais, qui a un dictionnaire en fait quasiment deux fois plus épais que le dictionnaire français.
Ben, déjà, l'anglais tel de américain. Et entre guillemets, parce qu'en fait il s'est réenrichi par d'autres façons, mais par sa grammaire, un anglais appauvri.
Sans parler du Talking About Talk, le dictionnaire d'argot.
Oui, voilà. Ça peut être très riche. Mais disons qu'en fait, c'est comme dans toutes les colonies, enfin des endroits. L'Amérique du Nord, c'est un endroit où sont arrivés plein de gens de plein de nationalités différentes.
Et surtout les plus pauvres.
Oui, aussi.
Surtout les
pauvres.
Quand je dis c'est surtout les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont une base de langage beaucoup plus petite que les érudits.
Peut-être pas, parce que c'est juste qu'ils n'avaient pas le vocabulaire qu'on écrit dans les livres, mais ils avaient peut-être un vocabulaire beaucoup plus riche pour décrire des choses qui ne concernent pas du tout la bourgeoisie ou les hautes classes. Mais c'est surtout des gens qui parlaient plein de langues différentes et qui se sont retrouvés à devoir en parler qu'une.
Oui.
Et donc forcément, on simplifie d'abord. Parce que c'est ce qu'on fait tous. Si je dois rencontrer quelqu'un qui veut apprendre le français, et qui parle pas bien français, je vais simplifier naturellement mon français pour qu'il le comprenne. Et pire, je vais prendre ses défauts.
Oui.
Parce que à force d'entendre ses défauts, je vais m'en imprégner. Et quand ça se passe à l'échelle d'un continent, voilà, c'est ce qui se passe. Maintenant, le globish, c'est un outil. Et moi, je trouve qu'il est très pratique. Je trouve qu'il n'est pas suffisant. Et je trouve dommage de se restreindre à cet outil, parce que voilà, chaque langue a une histoire, a une culture. Et puis, quand on découvre un pays, si on n'y parle qu'anglais, on reste un peu à la surface de ce pays-là. Ça, c'est un point de vue. Et deuxième chose, c'est qu'en ayant voyagé beaucoup, je peux vous dire que l'anglais, ça suffit pas. Ça suffit pas dans plein d'endroits. Déjà en France, pour les étrangers. Mais voilà, il y a plein d'autres endroits où il y a des langues qui sont beaucoup plus parlées. Par exemple, dans les Balkans, le serbe est une langue véhiculaire. Dans les ex-URSS, évidemment, c'est le russe. Il y a plein d'endroits comme ça où c'est une langue qui sert d'intercompréhension entre des peuples différents, et où, du coup, vu qu'ils ont passé tellement d'années à apprendre cette langue-là, pas individuellement, mais collectivement, qu'elle prend le pas sur l'anglais. C'est-à-dire qu'en Russie, en Ukraine, parler anglais...
très difficile. Et aller dans les anciennes colonies françaises, comme ça a été morcelé, les pays ont été tirés au cordeau, les frontières ont été tirées à la règle, les peuples et les ethnies ont été coupés plus ou moins, mais dans certains pays, il y a trois ou quatre ethnies, la seule langue commune, c'est la langue de l'ancien occupant.
J'ai eu le cas au Maroc, alors c'était peut-être des choix politiques, parce que parfois, effectivement, on refuse politiquement de parler une langue, ou dans le sud, on m'a dit « Non, moi, je parle berbère et français ». Et on me refusait, pourtant, j'avais essayé de faire l'effort d'apprendre un peu l'arabe dialectal marocain, et on m'a dit « Non, moi, je parle berbère ou tamazirt et français ». Donc, voilà.
Du coup, tu as été obligé d'apprendre le berbère.
Je commençais à être fatigué là. Il y a un moment, j'ai appris eau, sous, pour pas mourir de soif.
Voilà. Ouais. Et le mieux quand même pour aller se débrouiller dans un pays, il faut connaître au moins les quelques mots de base. Le pain, le vin, si ça existe,
l'eau,
le beurre, tous les éléments dont on a besoin.
Je pense que les premiers mots qu'on doit apprendre, c'est les mots, en parlant d'aliments, c'est les aliments auxquels on est allergique. Je pense que c'est vraiment là, il y a quelque chose d'indispensable sanitairement.
Moi j'ai appris en allant au Maroc que zebda ça voulait dire beurre.
Oui.
Mais je ne le savais pas avant de partir et c'est pas si vieux. Pourtant, le groupe Zebda, je le connaissais.
Oui, voilà. À Toulouse quand même. On n'a pas trop le choix, je crois. Mais c'est un jeu de mots justement sur le beurre et le beurre. Mais ça fait partie aussi des choses qui permettent d'apprendre facilement un mot.
Oui, voilà.
Parce que là, du coup, c'est impossible de l'oublier.
C'est impossible de l'oublier, tout à fait.
Voilà.
Bon, on va être obligé de laisser la place.
Je sais pas, il n'y a personne arrivé, donc.
On va continuer encore 5 minutes. Donc la caravane sera. On rappelle les endroits.
Donc au Wild Rose, avec la petite rose dans le sol apparemment devant, mardi, quelle que soit la date prochain, et le mercredi, le lendemain donc, avec l'association Toulang, à la maison des associations à Arnaud Bernard. Et on va faire donc des jeux, parce qu'on veut montrer que apprendre les langues, en fait, c'est amusant, déjà. Que ça demande pas tant d'efforts si on s'amuse, déjà. Et qu'il y a plein de choses, donc, avec nos langues frères et sœurs, qu'on peut comprendre rapidement. Et qu'une fois qu'on les sait, c'est un peu comme Zebda, on n'oublie plus. Ouais. Parce que c'est... Peut-être que la première fois, ça nous a pas sauté aux yeux, mais une fois qu'on nous le dit... on le voit, et donc on va jouer avec les langues, on va faire aussi un peu découvrir tout le panorama des langues du monde, enfin pas tout, mais on va montrer, donner une idée, voilà ce que c'est que les familles de langues, dire déjà, est-ce que vous avez une idée, là, combien il y a de langues, combien on compte de langues, parce que c'est impossible de dire combien il y en a, combien on en compte ?
Plus de 5000.
Pas mal, c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent en pays.
Oui, il y a 192 pays, mais plus de 5000 parce qu'il y a certains qui.
Parce que déjà, il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et déjà, juste que sur ces petites îles-là, il y a quasiment un dixième des langues du monde. On en compte entre 6 et 7 000. Donc quand on me dit que je parle beaucoup de langues parce que j'en parle 11,
oui.
Et je réponds non, et que j'ai beaucoup de chemin à faire pour les parler toutes.
Et il y en a même certaines où il n'y a plus qu'un seul locuteur.
Ouais. Il y a une langue où il y a deux locuteurs.
Et qui ne se parlent pas.
Et qui ne se parlent pas, qui sont fâchés. Et il y a des gens qui essayent de résoudre ce problème. Parce que c'est quand même dommage. Il y a une langue qui est en train de mourir parce qu'ils seront fâchés. Mais de toute façon, bien qu'ils la parlent quand il n'y a plus que deux locuteurs. Mais il faut accepter parfois que des langues disparaissent parce qu'on en crée aussi tous les jours. Finalement, le langage SMS est peut-être aussi une langue.
Il y a l'espéranto, mais qui ne fait pas beaucoup d'adeptes.
Qui en fait moins. Il en a fait. Il en a fait beaucoup plus, je crois que c'était à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une volonté peut-être d'union des peuples. Il y en a un peu moins maintenant. Mais pourtant, ça reste une langue qui se parle beaucoup. Moi, personnellement, qui ne m'intéresse pas, parce que je préfère apprendre toutes les autres langues que d'apprendre une langue derrière laquelle il n'y a pas une culture, même si je sais que c'est le but, que ça ne soit pas attaché à un pays. Moi, j'aime bien m'intéresser à la culture qui se cache derrière une langue. Et c'est aussi un truc très intéressant. On parlait des gestes, de la différence des gestes entre les Japonais et les Français pour dire bonjour. C'est quelque chose qui est assez fascinant, ces différences pour dire des choses aussi simples que bonjour, que merci. Moi, il y avait quelque chose que je trouvais très poétique, c'était pour dire méduse en turc. On dit Deniz Anası, qui veut dire la mère, comme la maman, de la mère. Comme si c'était la méduse qui avait enfanté la mère. Donc c'est plein de choses comme ça que je trouve assez poétique en fait, qui rendent sympa l'apprentissage.
Le truc le plus difficile à comprendre, dans une langue, c'est les idiosyncrasies. C'est-à-dire, il pleut des hallebardes. En France, on dit ça, hein, où il tombe des cordes. Les hallebardes, personne ne sait ce que c'est. C'est les grandes lances qu'on voit pour la plupart, quand vous regardez.
Hein, dans des musées.
On en trouve dans des musées. Autrement, on les voit sorties au Vatican sur
la garde suisse.
Mais bon, on a et certaines idiosyncrasies anglaises qu'on comprend pas ou
raining cats and dogs. Il pleut des chats et des chiens.
Voilà, par exemple. Alors ça peut se transformer peut-être avec nos hallebardes ou nos cordes, mais j'en sais strictement rien, moi.
Oui, bah c'est des équivalents. Après, c'est chacun qui aime rajouter un peu de poésie à sa langue, parce que enfin, tout le monde n'a pas ce pouvoir-là, mais il y a plein de gens anonymes qui aiment jouer avec la langue. C'est le verlan, c'est ça.
Oui.
C'est aussi parfois
le javanais.
Le javanais. Il y a parfois un mélange entre pas vouloir être compris, se créer une identité pour appartenir à un groupe. C'est pour ça aussi, moi, que je suis convaincu, même si à chaque fois quand je dis que je parle 11 langues, il y a une question qui revient souvent, on n'était pas loin là, est-ce que de toute façon, à quoi ça sert, puisque de toute façon on finira tous par parler anglais?
Non, c'est pas vrai.
Non, parce que pour une question simple, déjà, un, on n'a pas les mêmes besoins, donc on a tous besoin de vocabulaire différent. Il y a souvent, on fait ce cliché que les Inuits ont 15 mots pour dire neige. Parlez à un montagnard français, vous verrez qu'il en a autant.
Oui.
Donc on a tous des besoins différents, et donc on a besoin d'un vocabulaire différent, et puis on a surtout besoin de notre identité, et c'est ce qui fait souvent l'identité. En France, on parle d'état-nation, c'est récent.
Ça fait véritablement, ça s'est fait après la fin de la Première Guerre mondiale.
Oui, voilà, dans les faits, ça. La volonté, c'était à la fin de la Révolution. Enfin, la Révolution,
non,
mais
même
voilà.
Même avant.
Oui, bon, avant c'était par la conquête, après c'était plus. Enfin, mais donc, la Seconde Guerre mondiale a créé une unité parce que là on avait un ennemi commun, donc c'est facile de sentir ami.
Hein, et puis les lois de Jules Ferry un petit peu avant aussi, où l'école obligatoire et interdiction de parler la langue. Interdiction de parler la langue régionale.
Oui, voilà. Donc ça, c'est quand on le fait par la force. Et après, il y a la force m'est venue de l'extérieur. Voilà, la Première Guerre mondiale avec un ennemi commun. Et du coup, c'est plus pratique quand même de parler la même langue pour se comprendre. Mais du coup, une fois qu'on a dépassé cette chose-là, on a envie de revenir dans notre régionalisme. D'ailleurs, on voit l'Occitan revient. Même beaucoup de gens sont de beaucoup plus en plus fiers de leur accent, alors qu'ils en avaient honte. Ils font ressortir des mots comme...
Je sais pas, moi.
Le mot là de tout à l'heure avec le café.
Ah non, non, abratafier, c'est un mot de l'Olipo.
De l'Olipo, d'accord. Oui. Non, mais où moi j'ai découvert espanté en arrivant à Montpellier. Pourtant, je suis du sud, mais là où j'étais, on disait pas espanté. Voilà, et donc il y a des mots qui reviennent parce qu'on a envie de sentir appartenir à un peuple.
D'appartenir à une partie au lieu où l'on vit.
Voilà, de savoir.
Et puis ça vient naturellement à force. Si on vit à Toulouse, on prend pas forcément l'accent, bien que ta voisine a pris l'accent du sud pour nous parler en français. Mais parce que la musicalité nous intéresse ou pas aussi.
Bah, la musicalité, ça fait partie de la langue. Et je dirais même. Moi, j'ai une anecdote là-dessus, sur Youssef Chahine. Donc le réalisateur algérien, quand il est arrivé en France, il m'a raconté ça, il est arrivé à Marseille. La première fois qu'il est arrivé en France. Et donc il a appris le français à Marseille. Et quand il est monté à Paris, il ne comprenait plus rien. Il a été obligé de réapprendre le français parce qu'il a appris le français avec l'accent de Marseillais.
Heureusement qu'il n'est pas allé au Québec, parce que là, il ne comprendrait vraiment plus rien. Mais le français... Et en fait, il y a aussi, en parlant d'accent, il y a cette idée qu'il y a la possibilité de ne pas avoir d'accent. C'est pas typiquement français. Dans tous les pays, les gens qui parlent le parler le plus proche de la capitale pensent qu'ils n'ont pas d'accent. À part peut-être dans les pays latino-américains, parce qu'ils sont bien conscients que d'un pays à l'autre, ça change, donc voilà. Mais si là, je pense, hein, français qui a l'air d'être le plus neutre possible, sans accent. Pourtant, si je fais tatin tatatin, vous verrez bien que ce que je dis tatatin tatatin a aussi une musique.
Voilà, c'est ça.
On se croit.
Comme disent le Marseillais, il y a les pointus.
Voilà. Mais tout le monde a un accent, une musique, un rythme, et c'est juste, voilà, il faut être conscient que ça aide aussi pour apprendre notre langue, se rendre compte que nous, quand on parle notre langue et qu'on a l'impression de ne pas en avoir d'accent, bah on en a bien.
On a tous un accent. Pour celui qui habite à 200 km, on a un accent, parce qu'il ne parle pas de la même manière que nous. À part les 12 millions d'habitants de l'Île-de-France qui parlent à peu près avec le même...
En Île-de-France, ils parlent avec l'accent breton, quoi.
Non, il y a tellement de monde. En Île-de-France, je crois que il y a les Bretons, les Aveyronnais, ils sont de partout, ils sont.
Ouais, et puis même d'un quartier à l'autre de Paris, c'est pas les mêmes accents. Hein.
Tout à fait, aussi.
C'est entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, déjà, ça change.
C'est surtout pas, c'est pas forcément le même vocabulaire. C'est surtout ça, plutôt.
Non, vraiment, moi je note, parce que je suis très attentif à ça, je note vraiment une différence d'accent, de rythme, de tout, quoi. Dans le 18e et dans le 16e, c'est pas le même...
Oui, mais enfin, du coup...
Ah, mais en parlant le français, hein.
Oui, en parlant le français, mais bon, le 18e, c'est plus métissé.
Oui, mais je parle des Français du 18e, ils parlent pas pareil que dans le 16e. Mmh.
16e, ouais. c'est métissé, mais pas de la même manière, mon frère.
Voilà.
Donc, on rappelle donc cette conférence aussi, parce qu'il faut peut-être en reparler.
Voilà, alors, je suis désolé, il y avait 200 places à vendre, elles ont été vendues en 8 minutes.
8 minutes.
Voilà, c'est mort. Non, mais par contre, vous pouvez suivre sur le site internet TED, TEDX, comme la lettre, et toulouse.com. Vous pouvez suivre ça aussi sur le site de France 3 Midi-Pyrénées. Il y a aussi plusieurs lieux qui vont retransmettre ça en direct, un peu comme le match qu'il y aura le soir. Parce que c'est pas incompatible, vous pouvez profiter, ça commence à 14h. Donc vous pouvez regarder ces petites conférences. C'est vraiment pas des conférences comme on les imagine, des choses ennuyantes et tout ça. Le but, c'est, enfin, moi je vais faire de mon mieux pour que ce soit drôle, ludique et que ça soit suffisamment court pour qu'on s'ennuie pas. D'ailleurs, la raison de la durée maximum de 18 minutes,
c'est le temps maximum d'attention chez les gens.
Voilà, c'est le temps maximum. Donc de toute façon, au bout de 18 minutes, on change de personne, il y a un petit break et tout ça. Et il y a plein de choses. Il y a une animatrice radio du MOOV qui vient parler de je ne sais plus quoi. Il y a un grand voyageur, il y a un philosophe, il y a un chercheur qui va parler de Curiosity sur Mars. Donc il y a vraiment un grand panorama de sujets qui sont abordés. C'est pour ceux qui n'ont pas du tout envie de parler de langue, vous en faites pas, on parle vraiment de tout. Ils essayent de faire un... Et puis en plus, il me semble que la parité est respectée, donc il y a 12 intervenants, 6 hommes, 6 femmes, avec des âges très variés. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Enfin, moi, je l'espère.
Donc pour tous ceux qui n'ont pas réservé, qui n'ont pas leur place, quand est-ce qu'il y en a une deuxième dans une plus grande salle?
L'an prochain. L'an prochain. Et puis ça partira aussi en 8 minutes. Faudra pas. Faut. Je pense qu'il faut soit être vraiment accroché à son ordinateur et bien suivre, soit se rabattre sur les lieux relais. Et c'est sympa aussi parce que c'est dans des cafés, dans des lieux de coworking. Ça fait découvrir aussi des espaces qui permettent de.
Les lieux relais sont sur le site aussi ?
Ils sont sur le site. Et moi, je pourrais pas vous les dire. Je pense qu'il y a la cantine en face de la CAF ou de l'ENSET.
De l'INSEP et de la Poste à l'angle de la rue d'Aubusson et de la rue Riquet.
Voilà, on a un GPS avec nous.
Bah, j'habite juste à côté quand même.
Donc voilà, je suis quasiment certain que ça, parce que c'est un lieu partenaire, que ça sera retransmis là-bas, mais il y en a d'autres lieux. Voilà, pour découvrir plein de choses sur des sujets très différents. Et si vous voulez découvrir un peu ce que c'est, TED.com, il y a vraiment plein de sujets, vous trouverez des magiciens, des illusions d'optique, de la musique, des astronautes, de l'éducation.
Bien, ben, merci Sébastien.
Mais de rien.
On a pris un peu plus de temps, tant mieux, il n'y a pas...
On a démarré un peu plus tard que prévu, donc l'un dans l'autre, voilà, on a fait la demi-heure.
On se retrouve. Voilà,
nous vous souhaitons une bonne fin de soirée avec les programmes habituels de Canal Sud.
Oui, alors les programmes habituels, je ne sais pas s'il y a l'émission maintenant, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que, pour l'avoir vu sur leur site, donc ce soir il y a Voyelles, donc voilà, à partir de 21h. Ensuite à 22h30 Les Petits Papiers, culture et militance.
Fatima viendra vous parler de je pense qu'elle parlera un petit peu des bouilles.
Ouais, certainement. Voilà. Et puis ensuite lu et approuvé pour finir la soirée avant, enfin pour finir la soirée avec une émission, parce qu'après il y a les animations de Canal Sud. Les programmes de nuit de Canal Sud
qui sont assez
que France Culture nous envie.
Voilà. Bon. Merci à vous, merci donc rappelle-moi ton prénom. Allô,
Selma.
Oui,
Selma. Merci à vous et puis je voulais juste faire une dédicace à Mathieu parce que j'avais dit que j'allais le faire donc je le fais et puis à Céline parce que je pense qu'elle m'écoute et c'est grâce à elle quand même que j'ai découvert la radio et puis merci à vous de m'avoir permis d'assister à cette émission que j'ai trouvé vachement bien.
Ouais, mais chaotique.
Chaotique, mais ça c'est aussi le monde de la radio, bon. C'est aussi le monde quand c'est formaté. C'est Europe 1,
on peut être. On n'est pas obligé d'être chaotique. Désolé, c'est plus confortable.
C'est plus confortable, mais les problèmes techniques, ça arrive aussi.
Oui, mais là, parce qu'on est à Canal Sud, on a le droit de déborder, mais c'est ça l'avantage. On peut faire chaotique parce qu'on a le droit de déborder d'un quart d'heure. Il n'y a personne pour nous couper le sifflet à 30 secondes après la fin de l'heure.
Bon. Voilà, bonne soirée à tous. On se retrouve demain midi pour le magazine avec la chronique. Théâtre
Demain on est pas vendredi.
La
chronique cinéma, et on recevra un organisateur d'un premier festival de films noirs africains sur Toulouse. Voilà, première édition, donc ça devrait être intéressant. On espère qu'un jour ils feront un spécial Djibril Diop. Oui,
pourquoi pas. Ça
serait vachement
bien,
un spécial Djibril Diop. Voilà, et également, j'en profite pour le signaler, donc un coup de pub, parce que le film le mérite vraiment, donc à l'ABC, à partir du 4 juin, va sortir donc le fameux film de Sébastien Sepulveda, donc Les Sœurs Quispe. Authentique fait divers qui a défrayé la chronique dans le Chili de 1974, qui se passe en milieu rural, un film dur sans rédemption. Ça se termine mal, voire très mal. Mais en même temps, il y a une humanité hallucinante, quoi. Voilà. Un film chape de plomb, mais beau. Voilà.
Bon. Malgré tout.
Oui, pas malgré tout. Beau, tout simplement. Magnifique. Voilà.
Malgré la chape de plomb, c'est ça.
Oui.
Bon. À demain.
Eh ben, on lance le générique de fin.
Tout à fait.
Hein, allez, pour le plaisir. C'est donc définitivement la fin de ce magazine. Prochain rendez-vous du magazine demain 12h. Et pour patienter jusqu'à l'émission Voyelles, vous allez avoir droit à la programmation musicale de Canal Sud, riche et variée comme elle se doit. On commencera avec un mélange de funk, de rap, de reggae, de ska, et puis ensuite, pour enchaîner sur Voyelles, il n'y aura que des chanteuses, histoire de fermer le clapet aux animateurs de Chéri FM, par exemple, qui nous enseignent qu'on ne peut pas passer trois chanteuses d'affilée.